France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, je reçois Stéphane Le Rouge pour fêter les 20 ans de sa légendaire collection discographique Écoutez le cinéma. Il nous invite à redécouvrir les bandes-sons, les musiques et les voix des chefs-d'œuvre du 7e art au programme Chloé Rec, Misraki, Delru, Duhamel, Michel Legrand, sans oublier Bardot, Carina, Moreau et les autres. En fin d'émission, la chronique de Serge Laïc. Mais d'abord, c'était il y a 50 ans et un jour que nous quittait celui qui fut entre autres chanteur d'opérette sous le nom d'Ignace.
Oui, mon trésor, ma gueule en or, à toi j'ai donné mon corps. Car des baisers ont su me griser, je te le dis sans te flatter. C'est pourquoi, mon loup, mon petit chien fou, je veux toujours me pendre à ton cou. Tu m'as éjoté dans la peau, j'en reviens pas, j'en suis marteau.
Marteau. Oh, redis-le-me, mignonne. Oh, redis-le-me si tu veux.
T'avoir le soir, espoir nous voir, à toi je m'abandonne.
Oh, redis-le-me, mignonne. Oh, redis-le-me si tu veux. Redis-le-me si tu veux.
Comme c'est bien, mais je voudrais que ce soit plus canaille.
À la dure de dure, viens ici, môme. T'es ma gonzesse, je suis ton nénesse, et qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse pour?
Plus clair, c'est pour l'auberge qui vendrait ses pères et mères.
Cracher à 15 pas, moi je ne le crains pas, car je suis un mec un vrai de bras. Hop, faut une gagneuse pour le turbin, ou bien je te fous mes grolles dans le train.
Vilain.
Oh, 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 refile-le-me ton pèse. Oh, refile-le-me, ou bien je te casse en deux.
Le soir, dans le noir, à boire le trottoir, pour turbiner à l'aise.
Oh, refile-le-me ton pèse. Oh, allez, refile-le-me, moi je le veux. Refile-le-me, moi de deux.
Et la dame, c'était une autre grande fantaisiste, un peu plus oubliée évidemment que Fernandel, qui s'appelait Marie Bizet. Ici avec Fernandel dans un duo de l'opérette Ignace, la première opérette chantée par Fernandel en 1935 et adaptée au cinéma 2 ans plus tard.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Thank you.
Oh la jolie danse, c'est son nom d'ailleurs, second mouvement du concerto pour piano de Reynaldo Hahn, enregistré en 1937 par Magda Tagliaferro. La même année d'ailleurs que l'Ignace de Fernandel, le cher Fernandel, qu'on retrouvera tout à l'heure. Mais d'abord, place à mon invité qui fête les 20 ans d'une collection magnifique qu'il a créée. Elle nous invite à redécouvrir tous les sons, toutes les merveilles, toutes les voix du cinéma. Et d'ailleurs, nous allons pouvoir le constater avec beaucoup de documents qu'il a apportés avec lui. J'ai la joie de recevoir ce matin Stéphane Lerouge.
Mourir pour mourir, que ce soit d'ivresse, le cœur appuyé sur les amis de toujours. Mourir pour mourir, je veux mourir sous tendresse, car mourir d'amour, ce n'est mourir qu'à moitié. Je veux mourir ma vie avant qu'elle ne soit vieille, entre le cul des filles et le cul des bouteilles.
Et on a reconnu bien sûr la voix de Jacques Brel, c'était dans le film Mon oncle Benjamin d'Edouard Molinaro en 1969. Bonjour Stéphane Lerouge.
Bonjour Monsieur Duterte.
Voilà une des plages justement que vous avez mise en valeur dans votre nouveau coffret anniversaire de la collection Écoutez le cinéma. Elle a un sens particulier pour vous cette musique qu'on vient d'entendre?
Oui, bah c'est une magnifique extension à la collaboration entre Jacques Brel et son arrangeur d'élection, frère de cœur François Robert. Et ouais. Voilà, j'étais très fier qu'on fasse un disque sur les musiques de films de Brel, parce que c'était un territoire encore un peu non défriché du continent Brel. Ouais. Et surtout d'avoir l'interprète qui s'efface derrière le compositeur et qui, bien sûr, coécrit avec Robert. Et voilà. Et là, c'est une chanson, effectivement, que Brel chante en situation dans la cour de la prison de Mon oncle Benjamin.
Une chanson donc, que vous avez rééditée,
éditée,
on peut dire, dans votre collection Écoutez le cinéma, parce qu'elle n'est pas reprise dans la discographie habituelle de Jacques Brel.
Non, curieusement, il n'y avait jamais eu de disque à l'époque, même sur Barclay, de Mon oncle Benjamin, ni de la chanson, des chansons, ni de la musique instrumentale d'ailleurs. Donc c'était un peu vraiment une sorte vraiment d'incunable, de trou, de vide dans la discographie de Brel.
En tout cas, je suis content de vous revoir. Vous étiez venu dans cette émission, notamment sur une péniche sur la scène, hein, avec notre cher Michel Legrand, peu avant sa disparition d'ailleurs.
Oui, quatre mois, c'est un très très beau souvenir. Le livre qu'on avait écrit à quatre mains venait de sortir, vous l'aviez reçu. Il y avait une vraie émotion, parce qu'on sentait chez Michel une sorte déjà de fragilité naissante. Ouais.
Et vous êtes donc, faut le rappeler, le grand spécialiste de l'œuvre de Michel Legrand et plus généralement de la musique de film. C'est vous qui animez donc depuis 20 ans cette collection Écoutez le cinéma.
Moi franchement, je suis ravi qu'on ait pu concevoir ce livre-disque qui réunit des entretiens effectués au fur et à mesure, au gré de la collection. Mais je n'en ai pas eu l'idée, c'est un camarade d'Universal qui s'appelle Damien Declercq, qui brusquement ça a forcé à jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, un regard comme ça rétrospectif, et à prendre conscience de la richesse de ce matériel, de ce patrimoine qu'on a réactivé au fil des années.
Alors on va évoquer quelques-uns de ces trésors que vous avez rassemblés, dont une jolie anthologie sort pour l'anniversaire, d'écouter le cinéma. Mais d'abord peut-être replongeons dans votre tendre enfance. Le générique de Vidocq, une célèbre série télévisée créée à l'ORTF en 1967.
Ça, c'est la deuxième série avec Claude Brasseur qui remplaçait Bernard Noël.
Oui.
C'était Gainsbourg et Colombier qui avaient mis en musique la première saison. Et la deuxième et troisième saison, remplacement de casting en partie et remplacement de compositeur, puisque c'est Jacques Loussier, effectivement, qui prend la place de Gainsbourg et Colombier.
Voilà, c'est ce qu'on vient d'entendre.
C'est ce qu'on vient d'entendre. Ouais. Et moi, j'étais frappé, happé,
enfant. Petit, hein.
Je regardais ça, je ne comprenais pas notamment tout ce qui était lié à l'histoire, notamment au changement d'époque, etc. Bon. Mais j'étais vraiment presque spiralé par ce générique, par son côté très rythmique notamment, par ce goût qu'avait Loussier pour la syncope, le contretemps, et surtout d'avoir un générique avec un trio de jazz, mais où le piano est remplacé par un clavecin, pour se rapprocher de l'époque. Quoi. Et c'est le trio de playback, mais avec un clavecin. Voilà. Et j'ai adoré ce générique, et j'ai eu par la suite, comme vous, l'occasion de rencontrer Loussier, d'être ami avec lui.
Qui était quand même un musicien hors pair, enfin, il faut le dire.
Hein, oui, bien sûr. Et que finalement, playback a été, je dirais pas, une chance pour lui, bien sûr, mais aussi en partie une malédiction, parce qu'il a fait des tas d'autres choses, des œuvres, des concerts, hein, comme très beaux concerts.
Des oratorios.
Des oratorios.
Ouais.
Et voilà, et des musiques pour l'image formidables, dont notamment ce vidéo.
Et Thierry Lafronde.
et Rouletabille, et Rocambole. Mmh. Et c'était une époque
où... Donc vous parlez quand vous avez grandi après, dans les années 80,
70, 90. 90, bien sûr, mais... On se dit, voilà, on a envie de prolonger le plaisir de ce qu'on voit, notamment à la télévision ou au cinéma, d'une autre façon. Mais la vidéo est balbutiante à l'époque, dans les années 70. Et donc, c'est le plaisir de ça, c'est le disque, c'est de trouver les disques. Or, dans les années 70, retrouver des bandes originales des années 50, 60, c'est mission impossible. Parce que quand il y avait eu un disque, il avait été pressé à 1000 exemplaires, quoi. Donc,
et ça continuait d'ailleurs, parce que quand un nouveau film sortait, en général, on pouvait assez facilement trouver la musique, parce que c'était une nouveauté.
Mais 15 ans après, comment faire? C'est-à-dire que, je sais pas, je me souviens très très bien, c'est un souvenir marquant, je vois la Horst Granier de Fer le soir, sur ce qui était encore FR3, le soir de la mort de Pascal Jardin, en hommage, et je suis frappé par le son de Jean-Claude Vanier, quoi, cette espèce de mécano orchestral, banjo, clavecin, cymbalum, dans un contexte de Normandie, quoi, de Jean Gabin qui patrouille ses terres, et je me dis, mais comment trouver cette bande originale? Donc voilà, c'est né de cette frustration, d'abord de trouver les disques qui avaient existé, et ensuite, des années plus tard, avec les compositeurs, de faire revivre ces musiques en CD.
C'est déjà avec cette idée du son que vous avez commencé à faire des études de cinéma à la Sorbonne ?
Oui, enfin, parce que oui, c'était ce qui était de plus facile à faire, et puis c'était à la fois agréable, mais très très vite, j'ai rencontré des compositeurs, c'est-à-dire j'ai très vite rencontré Claude Bolling, puis Vladimir Cosma, Jean-Claude Petit, Maurice Jarre, qui était très important, et voilà, et de leur dire, mais est-ce que vous vous rendez compte que surtout, les artistes manquent parfois de recul sur leur propre œuvre et sur l'empreinte qu'ils vont laisser ou qu'ils sont déjà en train de laisser. Et Claude Bolling, quand je lui disais, mais Claude, est-ce que tu te rends compte que les Brigades du Tigre, qui est une série de télé iconique, il y a eu simplement un 45 tours au moment de la première saison en 74. La série, elle passait en boucle sur les chaînes et il n'y avait rien eu depuis. Donc il faut faire vivre ce que tu as écrit sur l'ensemble des saisons des Brigades. Voilà, c'est né comme ça.
Et c'est comme ça donc, que vous avez créé Écouter le cinéma il y a exactement 20 ans, puisqu'on en fête l'anniversaire aujourd'hui, mais... 10 ans avant, ou presque 10 ans, déjà en 92, l'année de votre diplôme universitaire, vous avez créé une première collection dans le même but, on peut dire.
Oui, de façon sans la richesse du catalogue d'Universal. C'était mes premiers albums pour un label qui s'appelait Playtime. Justement, avec Claude Bolling, avec Jean-Claude Petit, avec Loussier. Et puis un compositeur qui était très marquant, que j'aimais beaucoup, qui s'appelait René Cloérec.
Alors ça, on va en parler dans un petit instant, justement, de René Cloérec. Mais j'avais envie qu'on profite aussi de déguster tous ces extraits, ces raretés que vous avez rassemblées au fil des ans. Et alors ça, c'est vraiment un petit bijou, on peut dire, de Louis Malle pour ce qui est de la réalisation, Georges Delerue pour ce qui est de la musique. Là, une séance de travail de Viva Maria entre Bardot et Moreau. Vous nous en dites un mot et puis on l'écoute.
Oui, c'était pour un coffret 6 CD sur Georges Delerue qu'on a conçu en 2009 avec la femme de Georges Delerue, Colette, elle-même ancienne monteuse, donc qui adore être en studio, numériser des bandes. Et c'est un travail passionnant. C'est un moment que je préfère dans cette exhumation du patrimoine, c'est poser une bande qui n'a pas tourné depuis 40 ans sur un magnéto shooter, appuyer sur lecture et avoir des bruits de studio, de vie, des échanges. Et c'est ce qui s'est passé avec Viva Maria, où on entre un peu dans les coulisses de ces deux chansons écrites par Delerue, paroles de Louis Malle et Jean-Claude Carrière, à Les Petites Femmes de Paris, 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 Paris.
1, 2, Parions une thune qu'un savant studieux ignore que deux, moins deux,
reste une.
J'aime bien le recommencer celui-là.
Allez,
recommençons alors.
Deux.
Parions une thune qu'un savant studieux ignore que deux, moins deux,
reste une.
C'est une lacune s'il calcule mieux.
Deux fois deux plus deux n'en font toujours qu'une. Ah, les petites femmes de Paris. Ah, les petites femmes de Paris. Ah, les petites femmes de Paris.
Un, deux.
N'ayez pas de rancune, vous serez heureux. Dites-leur adieu, car de...
Poum, poum.
C'est trop d'une.
La tête, y en a qu'une.
Les jambes, y en a deux. Pour les amoureux, chacun sa chacune.
Aujourd'hui, j'ai une grosse voix terrible.
Bon, alors, est-ce que ça va, là? Allez-y, madame. On voit la modulation. Nadia part. Oui.
On a chanté la douceur des tropiques. On a chanté Venise et ses canaux. On a chanté le gazon britannique. Oui, mais Paris, c'est tellement plus beau.
Et voilà, donc, Bardot, Moreau, avec, alors au piano, une dame apparemment.
Oui, et Georges Delerue derrière.
Et Georges Delerue derrière qui tourne les pages, qui débat la mesure, etc.
Et qui se replonge, parce que c'est fascinant pour un compositeur comme Delerue, qui avait ce goût et cette qualité-là, c'est de savoir réinventer les musiques du passé.
Bien
et
sûr.
Pour Delerue, se replonger dans les valses 1900 ou les galops, les cancans, c'était quelque chose qu'il adorait. Quoi.
Et cet enregistrement, on peut le retrouver dans un des disques de la collection, il
oui.
faut préciser qu'il s'intitule...
Il s'intitule Le cinéma de Georges Delerue, 6 CD, sorti en 2009.
6 CD, sorti en 2009, Delerue. Alors, ça, c'est un des volets, évidemment, qu'il nous faut aborder. C'est ce que, malheureusement, vous n'avez pas connu parce qu'ils étaient déjà morts. On pourrait citer parmi les grands de ces années 60, Delerue et puis Michel Magne également.
Delerue, je l'ai rencontré deux fois, mais bon, c'était des rencontres fugaces, comme ça, une heure, deux heures. Michel Magne est mort en 84, donc j'avais 14 ans et j'aurais toujours le regret de ne pas avoir rencontré De Roubaix, mort en 75.
Voilà.
Et pareil, alors pour la génération d'avant, on ne parle pas de Georges Jean Paris, c'est de Jean Viennaire et de Georges Auric.
Voilà, mais pour la génération d'avant, par contre, vous avez rencontré quelqu'un d'extraordinaire, vous nous le disiez, c'est René Cloérec.
Ouais.
Grand musicien de cinéma, dont on ne connaît pas forcément le nom aussi bien que tous ceux que vous avez cités auparavant, et qui pourtant vous fascinez depuis longtemps, et qui a été pour vous une espèce de passeur, voilà.
Oui, parce que alors je savais qu'on réduisait tout le temps Cloérec au statut de compositeur de l'indicatif de Jean Mineur publicité.
Ah oui, bah oui, bien.
Quelque chose qu'il a écrit en exactement 20 minutes et qui a été pour lui, je dirais pas une rente, mais c'est devenu son numéro de sécurité sociale quasiment.
Ouais,
et j'avais un souvenir de lycée. D'avoir vu en classe de français Le Rouge et le Noir de Claude Autant-Lara et d'avoir trouvé le film absolument mais statique, figé, je dirais quasiment inerte, premier film en couleur d'Autant-Lara, et que la seule chose qui m'avait touché dans le film, c'était la musique de Cloérec. Je trouve qu'il y avait un lyrisme dans cette partition qui compensait un peu le côté Musée Grévin du reste. Et puis j'ai eu la chance, comme ça, par la SACEM, d'être mis en contact avec Cloérec, qui avait arrêté le cinéma à partir du moment où Autant-Lara l'avait quitté pour d'autres compositeurs plus jeunes. Donc ils ont travaillé ensemble pendant 20 ans. Ils se sont arrêtés de travailler en 64, si ma mémoire est bonne. Et Cloérec, on était là au début des années 90, était oublié de tous. Il vivait complètement coupé du présent, sans famille, sans plus aucun lien professionnel, à Vaucresson. Et donc je suis allé lui rencontrer, j'ai commencé à lui dire est-ce que ça vous amuserait qu'on réédite vos musiques de film. Il m'a dit oui, mais vous savez, je ne sais pas trop ce que j'ai comme enregistrement. J'ai peut-être des choses dans ma cave, mais je ne sais pas, je suis là depuis déjà des années, il faudrait que j'y aille. Je lui dis que je vous en supplie, allons-y. Et je lui ai quasiment mis une Kalachnikov dans le dos pour qu'on descende sur le champ. Et on a remonté de la cave à la fois des disques acétates en 78 tours, et quelques bandes, quart de pouce également, magnétiques. Et Chloé Rec m'a appelé le lendemain en me disant « Vous savez, je dois vous avouer une chose, cette nuit, ma cave a été inondée. »
Et de justesse, donc.
Voilà. D'abord, ça nous a permis de faire ce disque. Et deuxièmement, ça m'a fait prendre conscience de la fragilité des choses. Et je me suis dit, mais finalement, chaque jour, presque chaque heure qui passe, c'est une chance en moins, peut-être, de pouvoir exhumer un trésor.
C'est pas la responsabilité des maisons de production que de conserver toutes ces sources.
Et des éditeurs, notamment. Mais les éditions changent, passent de main en main, des déménagements, etc. Et on a des trésors comme ça qui se sont.
Finissent par disparaître.
Par évanouis à jamais, malheureusement.
Alors, Chloé Rec, vous disiez, il a été vraiment le compagnon musical d'Autant Lara. Et moi, il y a un film d'Autant Lara que j'aime particulièrement, qui est En cas de malheur, oui. Avec Bardot et Gabin, bien sûr, et dont la musique est donc de Chloé Rec, avec un thème qui, je crois, vous me disiez, plaisait particulièrement à Michel Legrand.
Oui, parce que alors Michel Legrand était fasciné. Un jour, il m'a dit, mais moi, Chloé Rec est un compositeur, et il vénérait Chloé Rec sans jamais l'avoir rencontré. Et dans l'autre sens, Chloé Rec partageait un pianiste de studio, qui s'appelle Raoul Gola, avec Michel Legrand. Et un jour, Gola avait dit à Chloé Rec, méfie-toi, tu vas être bientôt à la retraite, parce que là, il y a un petit génie qui déboule, il s'appelle Michel Legrand. Et finalement, ils ont fini par se rencontrer, et c'était en 95, on a fait un déjeuner dans un restaurant, ça s'est merveilleusement passé, ils se sont compris, vraiment, ils ont un dialogue de compositeur à compositeur, et Chloé Rec, à l'issue du déjeuner, lui a dit, écoutez Michel, moi je voudrais faire une seule chose, c'est l'argent dont je dispose, j'ai plus de 80 ans, je vais mourir bientôt, je voudrais financer un réenregistrement de mes musiques de film et que vous dirigez l'orchestre. Legrand a souri, lui a dit, évidemment, je serai là, ils se sont serrés la main, et malheureusement Chloé Rec est mort quelques semaines plus tard.
Cas de malheur d'Autant Lara, le duo Gabin-Bardot, donc dans ce film, avec la musique, la belle musique de René Chloé Rec qu'on vient d'entendre, et ce thème d'amour qui faisait pâlir d'envie ou de jalousie sympathique Michel Legrand,
je crois. Ah oui, il vénérait ce thème, il aurait été ravi de l'écrire.
Stéphane Lerouge, ce disque Chloé Rec que vous avez fait aussi il y a quelques années, donc il reprend cette musique et d'autres. Là, on entend bien que c'est un son d'époque, mais c'est quoi alors votre source?
Alors là, c'était donc ce qu'on appelle un acétate, c'est-à-dire que souvent les compositeurs sortaient du studio et on leur gravait pour eux leur musique sur un 78 tours. Voilà. Donc ils partaient avec ça comme source, ils se disaient au moins on aura ça. Et la musique, bien sûr, elle était mixée dans le film.
Voilà, mais c'était pas édité du tout.
Mais c'était pas édité. Et souvent d'ailleurs, l'édition, avant que le 45 tours n'arrive, l'édition de 78 tours, dans les années 30, 40, début 50, était limitée surtout aux chansons des films. Quand il y avait une chanson de film, on sortait un disque. Mais sinon, ça n'était pas le cas.
Et les bandes-son des films, on ne peut pas les utiliser. Parce que
c'est mélangé, et tout est mixé, et puis c'est un son optique surtout. C'est-à-dire, oui. Tout était mélangé sur une piste, avec un son extrêmement compressé. Quoi.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Oh.
Heureusement, vous aviez vidé la cave de René Cloérec juste à temps pour qu'on puisse entendre cette musique du film En cas de malheur, produit d'ailleurs par Ray Ventura,
oui.
Hein, qui était devenu producteur de films
dans les années 50.
Hein, dans les années 50, toujours proche de Misraki, j'imagine, à l'époque.
Oui, c'est son compositeur de cœur, c'était son vieux copain des collégiens, bien sûr, Paul Misraki, qui a, je pense, dû mettre en musique 89% de la production de Ray Ventura, producteur.
Pas celle-ci, puisque c'était Cloérec, le partenaire habituel d'autant Lara. Mais Misraki, lui, autre grande figure du cinéma d'avant, si j'ose dire, déjà d'avant-guerre, c'est quelqu'un que vous avez bien connu également.
Oui, très bien connu pendant les 7 dernières années de sa vie, qui est un personnage fascinant, énigmatique, parce que c'est un peu comme Michel Legrand. On sent qu'on a une personnalité qui est elle-même composée de 1000 personnalités.
Ah oui.
Et que...
Il y avait le théologien, le chanteur fantaisiste,
oui.
L'orchestrateur, l'amoureux de Ravel, le compositeur de cinéma.
De cinéma, et c'est vrai qu'il était, il était fasciné quand même par le monde de l'invisible, etc. Moi, j'étais frappé à vie par une conversation, mais qui pour moi vraiment était aux confins de la quatrième dimension, avec Paul Misraki qui me dit, ah, mais tu sais, j'ai parlé avec Ray Ventura il y a 2 jours. Et là, je lui dis, mais Paul, vous savez, Ray Ventura est mort en 79. Et il me dit, non, mais tu sais, après avoir déjeuné, je m'assois dans mon fauteuil, je fais une micro-sieste d'un quart d'heure, et parfois Ray apparaît et me donne des débuts de thème. Et il se met à son piano et il me joue un thème, comme ça, qui était pas mal d'ailleurs. Et je lui dis, mais tout est de lui. Il dit, non, mais les 4 premières mesures, mais après la suite, je trouvais qu'on pouvait faire mieux à partir du même point de départ, donc la suite, c'est de moi. Et je lui dis, mais alors, Paul, comment est-ce que vous allez faire pour le dépôt SACEM? Il y a un blanc, et Misraki me dit, non, vu que là où se trouverait, il n'y a quand même pas de répartition, je vais le déposer à mon nom. Et dit avec une malice et une affection énorme. Et voilà, j'adorais cet homme qui avait quelque chose quand même d'un vieux sage, je trouve, Paul. Il y avait une sérénité en lui. Et je pense que le cinéma, mais ce sera aussi la même chose des années plus tard pour Gabriel Yared ou pour Jean-Claude Petit, le cinéma l'a grandi. C'est-à-dire que le cinéma l'a sorti du format de la chanson, de la structure.
De l'archiduchesse.
Oui, de la scarlatine, de la structure ABA, lui a permis d'affirmer, d'assouvir une vraie dimension de symphoniste qu'on entend dans Montparnasse 19 de Jacques Becker ou dans Monsieur Arcadine d'Orson Welles.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Misraki, qu'on associe donc forcément au musical d'avant-guerre avec Ray Ventura et les collégiens, se retrouve alors à l'avant-garde de l'avant-garde avec Jean-Luc Godard dans les années 60.
Bah, c'est-à-dire, et curieusement, alors à cause des films de Lemmy Cohen, que beaucoup de gens de la Nouvelle Vague adoraient, et dit Constantine, à cause de certaines partitions très influencées par le jazz, à cause aussi de Wells, notamment, Misraki a été le seul cinéaste de l'ancien monde à franchir le barrage de la Nouvelle Vague.
Voilà, c'est
ça. Tous les autres sont restés vraiment sur le quai à marée basse, Cloérec, Vamparis, Auric. Voilà. Misraki, lui, il a eu cette espèce de passage avec d'abord Claude Chabrol et avec Godard. Et c'est vrai que pour lui, se retrouver avec le pape de la modernité sur Alphaville, c'était une expérience vraiment étonnante. Et Paul synthétisait cette expérience en une anecdote. Il disait qu'un jour, lui qui avait tant souffert en venant au mixage qu'à chaque fois les cinéastes mettaient sa musique à 3 km derrière le dialogue, il voit une séquence de dialogue entre Karina et Constantine et la musique est complètement barbouillée de musique et on n'entend pas le dialogue, la piste voix est complètement baissée, on n'entend pas ce que disent Karina et Constantine. Et là, Misraki timidement a dit à Godard, excusez-moi Jean-Luc, mais là on n'entend pas ce que disent les comédiens, il faut que vous montiez la piste voix, qu'on ait le dialogue. Et Godard lui a dit, vous savez, je vais vous dire quelque chose, il y a des tas de gens qui vont à l'opéra, ils vont voir, mettons, Rigoletto, ils ne comprennent pas un mot d'italien et pourtant ils trouvent ça très bien. Mais moi je fais la même chose.
Thank you.
valse triste, on a reconnu le rythme effectivement d'une valse, avec Paul Misraki donc dans la musique d'Alphaville de Jean-Luc Godard en 1965. Ces années 60 sur lesquelles d'ailleurs vous avez fait un travail particulièrement important, Stéphane Lerouge, je sais pas si c'est parce que ce sont les plus riches, mais 64, 65, 67, il y a des dizaines de films comme ça que vous, et notamment dans la compilation, alors que vous venez d'éditer, c'était peut-être la période justement entre l'avant-guerre où on n'enregistrait pas grand-chose et puis la période plus récente où on a fait peut-être des CD, le moment où il y avait le plus à restaurer, quoi.
Non, mais la nouvelle vague a été une époque absolument, voilà, une grande époque pour la musique à l'image. Et parallèlement, le cinéma populaire, et c'est vrai que je dirais, ce serait un peu être rétrograde de dire qu'il y a une espèce d'âge d'or, parce qu'il y a des tas de compositeurs aujourd'hui qui sont vraiment les équivalents de tous ces gens que l'on cite. Simplement, le cinéma ne leur donne plus, oui, la place. C'est pas une question de talent, c'est une question de place. Et qu'aujourd'hui, depuis le passage au numérique, à la charnière des deux siècles, trop de cinéastes barbouillent d'emblée leurs films de musique préexistante dont ils n'arrivent plus à se défaire. Le compositeur, soit il n'y en a pas, ouais, donc c'est de l'achat de droit, soit on lui donne un confetti de 50 secondes. Alors que sur tous ces films-là, les compositeurs, ils faisaient tout, quoi. Ils, ouais, assumaient toute la musique du film de A à Z.
Alors, je voudrais qu'on évoque quelqu'un, Stéphane Lerouge, qu'on a bien connu tous les deux, mais à qui vous avez même consacré un livre, qui est un autre des compositeurs importants de la Nouvelle Vague, puis qui était un personnage merveilleux. Dites-nous-en un mot, c'était Antoine Duhamel.
Antoine était un personnage, un grand extravagant, voilà. Il avait une sorte de grain de folie, il était une sorte de combinaison un peu mutante, physiquement parlant, entre à la fois Rasputin, Tournesol et le groupe américain ZZ Top.
Oui, aussi, et oui, c'est vrai.
Il vous embrassait comme ça, il vous serrait comme ça à chaque fois, contre les bras, à chaque fois qu'il vous voyait.
Il avait été condisciple de Boulez au conservatoire, comme par exemple Maurice Jarre. Il avait vraiment commencé à s'approcher de ce qu'on appelle la musique contemporaine avant de suivre un autre chemin.
Oui, c'était un... Oui, il était condisciple de Boulez dans la classe, notamment de Leibovitz et de Messiaen au conservatoire. Et je me souviens toujours d'Antoine me disant qu'il a vu presque une question, une espèce de choc comme ça, de questionnement presque identitaire quand il avait vu Tous en scène de Minelli. Et il s'était dit, mais comment est-ce qu'on peut parvenir à donner au spectateur autant de volupté avec le langage dodécaphonique? Et je lui avais dit, mais alors, c'était quoi la réponse? Et il m'a dit, ben, on peut y arriver, mais en se débarrassant un tout petit peu du dodécaphonisme. Et je pense que justement, Antoine est allé vers ça. Le cinéma lui a permis d'assouvir un goût pour la musique au pluriel, pour le jazz, notamment d'influence un peu ellingtonienne, pour la chanson aussi. Et voilà. Et il a eu des rencontres marquantes, puisque bien sûr, Jean-Daniel Paulet, Godard, Truffaut sur 4 films, et puis plus tard évidemment Bertrand Tavernier, Condroyer, et puis une magnifique renaissance avec Patrice Lecomte sur Ridicule. D'abord, je pense qu'ils ont tous compris que le cinéma permettait d'écrire de la musique orchestrale tout en touchant un public de masse.
Oui, c'est ça, oui.
Et souvent, quand le film avait un peu de succès, on pouvait même toucher à un public quasiment planétaire. Et puis je pense, deuxièmement, qu'ils ont compris que écrire pour le cinéma n'est pas un renoncement forcément à ses ambitions personnelles de compositeur. Je pense que, à travers l'univers d'un autre créateur qui est le metteur en scène, le compositeur, ça va l'obliger à réfléchir différemment, à trouver d'autres solutions, ça va un peu lui servir de... ça va le provoquer, en quelque sorte, et que ce qui va sortir de lui sera, quoi qu'il arrive, une musique à la première personne.
Et même dans le cas de Duhamel, quand on sort de chez Leibovitz et Messiaen, même ça peut le conduire à écrire des chansons pour Anna Karina.
Tout en haut du Tibidabo, la fête est dure tout au long de l'année. À la fête, on perd la tête, mais moi je n'ai pas besoin d'avoir de tête, je m'en moque puisque j'ai un cœur. La vie est magnifique, le ciel toujours bleu, sois pas mélancolique, la vie. J'aime les nénuphars pour l'amour de l'art. Et toi, je t'aimerai si tu veux. La 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 Je t'aimerai si tu veux. Si tu veux.
Le voleur de Thibidabo, un film que moi je ne connaissais pas, c'est Stéphane Le Rouge. Non, je vous promets.
Non, vous mentez. Non, c'est...
Ah, vous êtes choqué.
Ah, je suis un peu choqué là, mec.
Je regarde en cabine, on écarquille les yeux, je ne suis pas le seul.
Ah ouais, non, c'est le premier film de Maurice Ronet comme metteur en scène. Très belle chanson.
En 1965.
Chanson. Ouais, et ça est construit sur le duo Maurice Ronet et Carina, musique d'Antoine Duhamel et Rémo Forlani pour les paroles de la chanson. Et Antoine considérait que dans le domaine de la chanson, il avait deux réussites, deux chansons qui étaient les plus proches de son cœur. C'était cette chanson-là et la chanson qu'il a écrite en 2001 pour le laisser-passer de Bertrand Tavernier. Une très belle valse de la mélancolie sur des paroles de Jean Cosmo. C'était vraiment ces deux phares dans le domaine de la chanson, peut-être plus que la chanson la plus connue de lui, qui est Quelle histoire pour des années, quelques années plus tard pour Jeanne Moreau. Mais là, c'est formidable ce qu'on vient d'entendre. Ouais, un élève de Messiaen et de Leibovitz qui finalement simplifie son langage, écrit une mélodie qui est belle, évidente, avec des harmonies translucides, où il va chercher le lyrisme très loin, et puis porté par la grâce vocale d'Anna Karina.
On aurait pu évoquer Stéphane Le Rouge, le grand copain et complice d'Antoine Duhamel, qui était Pierre Janssen, auquel vous avez consacré également un disque, puisqu'il a écrit une très grande partie des films de
Chabrol,
et qu'il venait lui aussi vraiment de l'avant-garde. Alors,
ah oui, bien sûr. Ouais.
Janssen.
Les deux ensemble, c'était... ça me donnait l'impression de voir les deux bonshommes dans la loge du Muppet Show.
Oui, c'était un peu... un numéro burlesque, oui, il faut bien le dire. Mais alors justement, au fond, c'est tous ces disques de la collection qui constituent maintenant un catalogue, donc ils voient le jour soit autour d'un film,
oui,
soit autour d'un compositeur, soit autour d'un cinéaste, et puis ils mélangent des sources d'origine et des réenregistrements quand c'est nécessaire. Comment est-ce que tout ça fonctionne un peu?
Oui, dans certains cas de figure, on a été malheureusement devant l'impossibilité d'avoir des enregistrements d'époque.
Jean Paris, par exemple, on parlait d'un grand compositeur d'avant-guerre.
Sur Van Paris, on avait des masters, des bandes uniquement, qui étaient celles des 45 tours publiées dans les années 60. Mais c'était pas les films majeurs.
Ouais.
Et donc, on n'avait rien, on avait juste les partitions. Et là, il a fallu aller engager Laurent Petit-Girard, sublime compositeur.
Fait, j'imagine, avec enthousiasme.
Avec enthousiasme, et puis ravi de se replonger dans cette écriture-là. Et donc, on a réenregistré avec Laurent, avec la complicité des petits-enfants de Georges Van Paris, Nathalie et Paul. On a enregistré Casque d'or, Madame
French
2,
Cancan.
French Cancan de Jean Renoir, etc. C'était Les Misérables de Le Chanois, c'était une grande aventure. Et puis, idem pour Michel Magne, par exemple. Michel Magne qui a eu un incendie dans son château à Hérouville en 1969. Et là, c'est tout ce qui est, donc, tout ce qui précède cette époque-là qui va disparaître, c'est-à-dire les bandes master, les enregistrements et les partitions. Et quand, par exemple, il a fallu faire un disque autour des musiques des trois Fantomas d'André Hunebelle, qui sont trois partitions dans lesquelles Magne, lui aussi compositeur d'une forme d'avant-garde un peu loufoque, dans lesquelles il glisse quelque chose de son ambition de compositeur un peu expérimentateur dans ses films de genre, dans ses films du samedi soir, là, il n'y avait rien. Et on a demandé un magnifique ex-complice de Magne, quelqu'un qui avait travaillé avec Magne, mais quelqu'un qui est arrivé chez Magne à l'âge de 22 ans, qui s'appelle Raymond Alessandrini. Et Raymond a fait un travail incroyable, parce que d'après les films eux-mêmes, il a relevé les musiques,
les orchestrations.
On a fait copier et on a réenregistré à l'identique.
Et alors maintenant, on va écouter un document intéressant, parce que c'est Bertrand Blier, je crois, qu'on va entendre dans un instant, nous parler. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est que ce morceau que vous avez choisi pour nous.
J'ai eu la chance de pouvoir rééditer pas mal de bandes originales de ces films. Grappelli sur Les Valseuses, Georges Delerue sur Calmos, plusieurs films avec Gainsbourg.
Et avec du Schubert aussi, quelquefois,
temps en temps. Il adore Schubert, il adore Mozart. Et là, c'est un film avec Sard qui s'appelle Beau-père. Et le film commence sur une séquence bouleversante où Patrick Devers regarde la caméra. Donc ça crée toujours quelque chose de presque bunuelien d'avoir un personnage qui s'adresse au spectateur, regard caméra. Il est pianiste de bar, il raconte son spleen, il a 29 ans, il a l'impression qu'il est déjà en train de rater sa vie. Et donc Blier avait écrit un monologue bouleversant que devait dire Devers. Sard avait écrit le thème, joué par Maurice Vander au piano. Mais avant le tournage, Blier avait un petit doute. Il se disait, est-ce que la musique va bien fonctionner avec le texte? Est-ce qu'elle n'est pas trop dense? Est-ce que le jeu de Maurice Vander ne va pas étouffer mes mots? Et donc, il s'est dit, par précaution,
on fait un test.
On va faire un test et avec ma voix, etc. Donc, on fait un test avec sa voix. Tout le monde oublie ce document. Je le retrouve dans la cave de Philippe Sard. Je le numérise et je propose à Blier qu'on le mette en bonus à la fin du disque. Alors, il hésite. Il m'a dit qu'il faut que je réécoute. Je lui envoie. Pas de réponse. Et au bout d'une semaine, on partait en fabrication. Je l'appelle. Je dis, bon, Bertrand, qu'est-ce que tu décides? Et il me dit, oui, oui, c'est bon, on le met. Mais de façon très laconique, j'entends qu'il tire sur sa pipe.
Comme Bernard Blier, quoi. Là,
et je lui dis, mais d'accord, mais enfin là, parce que là, il rejoignait le métier de son père. C'est Bertrand qui joue un peu à Bernard. Et je lui dis, mais comme comédien sur ce texte, tu t'es trouvé comment? Et il fait, très bon.
C'était l'époque où je travaillais comme pianiste dans un restaurant panoramique au dernier étage d'un hôtel international avec vue imprenable sur la capitale. Ça aurait pu tout aussi bien se passer à Montréal, à Zurich ou ailleurs. Il y aurait eu la même proportion d'Américains, de Japonais, de Saoudiens, les mêmes créatures aux yeux fatigués d'avoir trop compté les dollars. Je pouvais leur jouer n'importe quoi, Gershwin, Chopin, Art Tatum. De toute façon, ils écoutaient pas. Tout ce qu'on me demandait, c'était de faire le moins de bruit possible, juste un peu d'ambiance, quelque chose de ouaté, comme un velours. Pour accompagner leur Saint-Émilion, leur Shrimp Cocktail, leur T-Bone Steak. Alors je jouais pour moi tout seul, des vieux airs de Bud Powell, dont j'essayais de retrouver le phrasé, sans jamais y parvenir, car je ne parvenais jamais à rien. Je m'étais fixé jusqu'à 30 ans pour réussir quelque chose dans la vie, et j'avais 29 ans et demi. Il me restait plus que 6 mois. En attendant, on me filait 150 balles par soirée, plus la bouffe et la boisson à volonté. J'étais content. Le seul problème, c'était que je venais juste de me faire engager et que les salauds, ils n'avaient pas voulu entendre parler de la moindre avance, même minime. Autant vous dire que j'attendais avec impatience la fin de la semaine pour toucher mon pognon et la fin de la soirée pour aller me coucher. Vers minuit, les tables commençaient à se dégarnir. En général, je me retrouvais en tête à tête avec un couple d'amoureux, des retardataires de l'affection, que j'avais pour mission de mener à bon port avec mon clavier magique. Allez donc savoir ce qui se passe dans la tête d'un pianiste derrière ses touches, pendant que vous sirotez votre champagne. Si ça se trouve, lui aussi, il est amoureux. Triste, parce que sa femme l'attend, ou parce que sa femme ne l'attend plus, parce qu'elle vient de le quitter, ou parce qu'elle va le quitter.
Thank you.
Jimmy Smith, le grand, le légendaire organiste qu'on vient d'entendre ici, dans la métamorphose des cloportes de Pierre Granier de Fer, donc où le cinéma français fait appel à un grand jazzman américain. Et alors, dans votre disque anniversaire, Stéphane Lerouge, de la collection Écoutez le cinéma, il y a, vous nous l'avez dit, des quantités d'interviews de musiciens, de cinéastes, ouais, leur travail musical. Et il y a notamment une interview de Pierre Granier de Fer passionnante où il nous raconte toute l'histoire de cette rencontre avec Jimmy Smith organisée par Daryl Zanuck.
Ouais, mais c'est vrai que c'est assez étonnant quand on pense à l'identité de la métamorphose des cloportes. C'est-à-dire c'est Alphonse Boudard, ouais, et Michel Audiard d'un côté, quelque chose de tellement français dans la langue, et d'un autre côté d'avoir un organiste afro-américain qui ne comprend pas le français, qui vient à Paris commandité par Zanuck qui coproduit le film et qui voit ces images et qui ne comprend évidemment rien des situations. Il ne connaît pas Maurice Birot, je pense, ni Aznavour ni Ventura, et puis il va sur le même schéma que Miles Davis 8 ans plus tôt chez Louis Malle. Il va improviser avec ses deux compagnons, guitariste et batteur, à l'image. Et c'est vrai que c'est une espèce de quelque chose qui va jaillir spontanément de lui, une réaction à l'image, le temps de deux séances qui vont durer une nuit. Et voilà, il va reprendre son avion et Granier de Fer me dira, d'ailleurs je ne suis même pas certain qu'il ait jamais vu le film mixé à l'arrivée.
En tout cas voilà, un morceau magnifique qu'on peut retrouver à la fois dans le disque que vous avez consacré au film La métamorphose des cloportes, et puis dans cette anthologie, cette sélection, ouais, d'extraits musicaux et d'interviews qui vient de paraître pour les 20 ans de la collection.
Étonnez-moi Benoît. Benoît Dutertre, France Musique.
Le jazz américain, et d'une autre façon, les musiciens non français sont aussi bien présents dans votre collection, ou en tout cas, ils ont été plus nombreux au fil du temps, Stéphane Lerouge. Je pense par exemple, pour parler des États-Unis, toujours à Quincy Jones, auquel vous avez consacré
un coffret de 6 CD, à la Lochifrine, bien sûr.
À la Lochifrine, alors c'est parce qu'ils ont tous vécu à Paris que vous les avez choisis, ceux-là ou...
Ce sont un peu des hasards, c'est que la Lochifrine est venue, c'était en 2016, il est venu en France pour à la fois la Cinémathèque, pour un festival à la Baule. Et voilà, et donc c'était l'occasion de lui consacrer un coffret de 6 CD. Quincy Jones, j'ai eu la chance de le rencontrer, de lui donner ce que j'avais fait sur Michel Legrand, qui était son grand camarade générationnel. Et j'ai vu qu'il y avait une petite frustration et qu'il m'a dit, mais moi aussi j'écris pour le cinéma. Donc Quincy Jones a une période de 10 ans, c'est vraiment une parenthèse de sa longue vie professionnelle. Et donc je me suis dit, tiens, tonton l'aventure. Et c'est passionnant parce que voilà, Quincy Jones aussi a rêvé de cinéma. C'est un enfant du cinéma. Écrire pour le cinéma était un rêve d'enfance qu'il a réalisé des années plus tard. Et c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les paramètres techniques et le son optique mono. Finalement, passer autant de temps en studio à chiader les prises de son, les mixages, et finalement pour entendre tout sur une même piste, ça l'a un tout petit peu un peu démotivé à un certain moment.
Et puis alors, dans une autre direction géographique, plus vers le sud, il y a Dieu le Père, Ennio Morricone, que vous avez rencontré, auquel vous avez consacré tout un coffret. C'était pas facile d'avoir Ennio Morricone. Moi, j'en rêvais un peu pour l'émission, puis des gens m'ont découragé, m'ont dit non, il refuse tout, il est très compliqué.
Je sens que vous auriez aimé interroger Ennio Morricone sur Suzy Solidor, vous connaissons.
Oui, sûrement, voilà, par exemple.
Non, Morricone, non, c'est un... Pareil, c'est comme Michel Legrand, Maurice Jarre, ce sont presque des divinités, que ce sont des monstres, ouais, des monstres sacrés. Et non, j'ai eu la chance, pareil, là aussi, de lui donner le coffret Legrand. Il a voulu qu'on fasse la même chose sur lui.
En fait, ils voulaient tous avoir la même chose que Michel Legrand.
Exactement, en quelque sorte.
C'est des grands gamins, tout ça.
Ouais. Voilà. Non, mais c'était un moment magnifique de temps suspendu. Je suis allé le voir en avril 2019 à Rome. Je l'avais rencontré déjà plusieurs reprises, mais toujours dans le cadre de festivals ou de concerts. Donc, il y avait une pression du temps, une pression des délais. Et là, à Rome, il n'avait rien à faire. Il venait de déménager. Il était dans un nouvel appartement. Il n'y avait pas de concert. Il n'y avait pas une écriture d'une œuvre en cours. Donc il était au calme, on a passé 4, 5, 6 heures comme ça ensemble. Je lui posais des questions, à chaque fois je lui disais, Ennio, je ne veux pas abuser de votre temps. Il me disait, vous êtes venu de Paris, allons-y. Voilà. Et ça a été je suis fier qu'on ait pu réaliser dans Écouter le cinéma, la première anthologie à hauteur de 18 CD sur Morricone. Ouais. Et j'ai tenu à y faire figurer un incunable absolu, qui est un souvenir d'enfance. Je pense que c'est enfant au cinéma, à 8 ans, la première fois que j'ai vu, ou 9 ans, un film mis en musique par Morricone, qui était un nanar ultime, une espèce d'avatar des Chant de la mer et de Moby Dick s'appelle Orca, mais il y avait dans ce film un thème qui avait une dimension d'élévation magnifique avec la voix de la soprano fétiche de Morricone, Edda del Orso, et cette voix qui flottait sur des cordes divisées comme ça, c'était sublimissime.
Orca, la musique de Morricone qui faisait rêver le petit Stéphane Lerouge, enfant, et qu'il a pu finalement éditer donc dans son grand coffret Morricone chez Universal. Stéphane Lerouge qui fête les 20 ans donc de sa collection Écoutez le cinéma, et on est très heureux que l'aventure continue. Stéphane Lerouge, ça continue, hein, ça
va évidemment continuer. Là je suis sur les projets jusqu'en 2034, après on verra.
Non, vous êtes En tout cas, Michel Legrand, on l'a évoqué beaucoup, ça a été, on peut dire, c'est votre œuvre majeure d'éditeur, d'archives, etc. Le travail que vous avez fait pendant des années sur Michel Legrand, avec Michel Legrand, etc.
Oui, enfin, il y a beaucoup de compositeurs dont j'ai été très proche. On n'a pas parlé de Francis Lay aujourd'hui, qui
bien
était
sûr,
vraiment un ami, comme
j'ai
Maurice
Jarre.
J'ai
un très bon souvenir d'entretien avec lui.
Ouais. Mais c'est vrai que Michel a été presque, par moments, comme une sorte de père de substitution, comme l'est aussi Bertrand Tavernier, par exemple, ou Pierre Richard, mettons.
Ouais.
Et j'ai eu la chance de le rencontrer à un moment où il n'avait pas forcément conscience de la nécessité, par exemple, de rééditer la musique de Podane en CD, quoi. Ils s'en moquaient un peu.
Puisqu'il marchait par période de 10 ans, donc il changeait de genre, le cinéma, la chanson, le jazz. Alors peut-être qu'à ce moment-là, il s'intéressait plus trop au cinéma, non ?
Non, mais surtout, il vivait dans une espèce de fuite en avant perpétuelle.
Oui, toujours faire quelque chose de nouveau.
Et il disait tout le temps que quand on venait lui dire, mais ça, il faut rééditer ça, il disait, mais moi, je l'ai écrit, c'est fini, c'est enregistré, pour moi, c'est posthume. C'est-à-dire que quelque chose était terminé, il voulait vraiment rêver vraiment au futur. Quoi. Et donc du coup avoir, alors finalement à chaque fois il me disait bon d'accord, fais-le si tu veux, mais je ne veux pas avoir à m'en mêler. Donc je venais quand même parfois lui faire écouter des trouvailles, des prises alternatives, certains montages que j'étais obligé de faire aussi pour qu'il le valide. Donc ça l'amusait, et au bout d'un moment je me souviens je le regardais et je voyais à son œil, à son regard, qu'au bout d'un moment il y avait un décrochage, parce que bon il disait c'est très bien, j'écris ça il y a 40 ans, c'est bon maintenant ça suffit, il faut que je revienne, et il me disait bon on arrête, on appuyait sur stop, et puis il repartait écrire.
Et enfin au bout du compte c'est à vous qu'il a fait appel pour sa grande autobiographie, donc il s'était noué quelque chose de fort, on peut dire, avec Michel Legrand. Vous avez édité combien de disques de sa musique de cinéma?
Je sais pas, c'était, je dirais, je dirais, je sais pas, 30 et 40, ouais, et dont un coffret, et donc de 20 CD.
Qui avec les versions aussi de travail, etc. Hein,
oui,
beaucoup de documents.
Beaucoup de documents, ouais. On a fait un coffret complet de demi, on a fait un coffret d'une anthologie de 4 CD, de 11, avec tous les formats, tout le nombre de CD possible imaginable.
Les suites d'orchestre tirées des films.
Tirées des films, jusqu'au coffret de 20 CD qui est sorti en novembre 2018, c'est-à-dire deux mois avant sa disparition, voilà, et qui était un peu une sorte un peu de quintessence ultime de l'œuvre de Michel. Et dans les moments vraiment émouvants, c'est quand notamment j'ai trouvé les séances de travail des Demoiselles de Rochefort, que j'ai trouvé chez Agnès Varda, dans une boîte à chaussures. Et puisque Demi hésitait toujours sur le thème, il donnait ses textes à Michel. Michel, sur chaque texte, donc, qui est écrit en alexandrin, échafaudait différentes propositions de thèmes. Et puis après, Demi venait et Demi enregistrait tout pour pouvoir ensuite choisir chez lui. Et toutes ces cassettes étaient chez Agnès Varda.
Dans une boîte à chaussures chez Agnès Varda. Une cassette.
Avec, et j'ai vu marqué essai Rochefort. J'ai compris que c'était pas des essais vocaux de Jean Rochefort. Mais je me suis dit,
on
mais voilà.
Tout à l'heure.
Oui, c'est vrai.
Et donc, ça donne cette étonnante séance éblouissante de la chanson de Solange. Alors, c'est Michel qui s'accompagne lui-même en chantant.
Voilà, Demi est là, etc. Parfois, Demi parle pendant les rires. Il dit oui, ça c'est bien, ça non. Le personnage est un peu sur Piccoli, le personnage est un peu triste, verrouillé de l'intérieur. Enlève-moi du lyrisme. Voilà, donc, c'est un parcours de création en temps réel.
Et puis, on va enchaîner avec The Other Side of the Wind. Juste un mot sur ce morceau qui
c'est
vous
le film,
est cher aussi.
Oui, c'est le film posthume d'Orson Welles, que Welles a tourné pendant 5 ans, 70-75, et qui a été finalisé simplement en 2018. Et le producteur de cette version avait trouvé, de la version terminée, finalisée, a trouvé une mention dans le calepin de Welles, une mention manuscrite de la main de Welles, disant « Call le grand for the music », appelez le grand pour la musique. Donc ils ont exaucé ce vœu-là 45 ans plus tard, et ça a été le chant du cygne, la dernière partition pour le cinéma de Michel Legrand.
Je rentrais de l'école, j'ai traîné Boubou, qui trépignait, jurait, pestait comme un voyou. Au milieu de la rue, il me fait un caprice, il jette son cartable dans les immondices. Me voilà à genoux, cerné par les vélos, en cherchant les crayons, les cahiers, les stylos. J'ai tendu ça et là, lorsqu'une voix aimable me fait lever les yeux vers un type adorable, comme un souffle grisant sa voix à mon oreille. Chante, fredonne et joue comme un envol d'appel. Je croise son regard et son regard me passe. Je suis émerveillé.
Thank you.
La dernière musique de film de Michel Legrand, The Other Sides of the Wind. C'est donc un enregistrement que vous avez édité, publié, en tout cas du moins, Stéphane Lerouge, dans votre collection Écoutez le cinéma, dont le coffret anniversaire vient de paraître. Bon anniversaire donc. Hein, voilà.
Merci.
Puisque c'est reparti jusqu'en 2034 et que vous avez encore plein de projets.
Oui, c'est vrai, bien sûr. Non, mais c'était formidable. On a commencé la collection avec quelqu'un de formidable que je salue, qui s'appelle Daniel Richard. On la poursuit aujourd'hui.
Chez Universal, voilà, c'est lui qui l'a créé avec vous.
Hein, ouais. Voilà. Georges de Souza aujourd'hui, Damien Leclerc, Pascal Debout, qui sont mes camarades au quotidien, parce que c'est un travail collégial de retrouver ces enregistrements, de les numériser, de les faire vivre, le travail juridique, la création visuelle aussi. Un graphiste qui s'appelle Jérôme Witz, le juridique, avec une jeune fille qui s'appelle Christelle Dalmeda. C'est des étapes vraiment stratégiques et on mesure pas tout ce qu'il y a comme ça, quels sont les le travail en arrière-cuisine pour faire exister ces bandes originales. Pour
quelques disques sont sous presse comme on dit, oui, ça
bien
vient
sûr
là,
oui.
Encore,
oui. Et même du néo-vinyle, puisqu'aujourd'hui syndrome retour vers le futur, c'est-à-dire que les CD des débuts de la collection ont pris la place des anciennes références en vinyle, et aujourd'hui certaines de ces bandes originales sont disponibles en digital, plus en CD, mais on peut les trouver à nouveau en vinyle.
En vinyle, ça revient à la mode, c'est le cycle éternel. Mmh. En tout cas, Stéphane Lerouge, voilà, je recommande beaucoup, pour ceux qui veulent simplement découvrir la collection, le coffret de CD, livre-disque, beaucoup d'interviews qu'on a évoquées ici, de grandes figures du cinéma sur la musique, le livre-disque Écoutez le cinéma, qui sort donc pour cet anniversaire des 20 ans. Et puis, je voudrais, avant de se quitter, qu'on salue quelqu'un que vous connaissez très bien, et puis que moi j'aime beaucoup, que j'ai reçu plusieurs fois à cette émission, qui est Bertrand Tavernier, autre passionné du cinéma, de ses musiques, de ses sons auxquels il a consacré avec vous, il faut le rappeler, toute une série de documentaires.
Oh oui, en fait, j'ai juste aidé Bertrand sur les segments musicaux de son voyage à travers le cinéma français. Et, voilà. Et c'était la première fois dans l'histoire du documentaire sur le cinéma que un metteur en scène comme Bertrand Tavernier donnait une telle place aux compositeurs, ou en tout cas il plaçait les compositeurs à l'altitude de leur contribution.
Et c'est pourquoi on va retrouver une musique de film de Bertrand Tavernier. J'avais envie de finir par quelque chose de joyeux. Vous connaissez le film Des enfants gâtés, Stéphane Lerouge ?
Est-ce que vous voudriez parler de la chanson chantée par Jean Rochefort et Jean-Pierre Marielle, qui ne jouent pas dans le film d'ailleurs ?
Voilà, mais ils sont en duo dans la chanson.
Dans la chanson du générique début, musique de Sartre, paroles de Cosimon, et chanson extrêmement entraînante, avec un esprit de presque dérision sur le Paris éternel, et en même temps sur des images de barres d'immeubles de banlieue.
Voilà. Chanson qu'on retrouve aussi dans votre collection.
Bien sûr, on a fait un disque Tavernier Sardes, et chanson qui avait servi de blason à la candidature de notre ami Philippe Meyer à la mairie du 5e arrondissement.
Ah bah oui, mais c'est quand même une date importante. Alors merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin, Stéphane Lerouge.
Merci,
et encore une fois, bon anniversaire.
Dans le Paris des Républiques, l'accordéon nostalgique a semé bien des musiques dont il reste des échos. Dans nos cœurs, il y a des rengaines dont les rimes incertaines se prenaient pour du Verlaine, du Bruant ou du Carco. Le chanteur des rues qui brame, à votre bon cœur, messieurs, dames, Paris sera toujours Paname, et tout ça ne vaut pas l'amour. Lorsque les télés s'allument, pauvre fantôme des brumes, s'en revient succès posthume, nous hanter au fond des cours. Et allez donc, envoie la ritournelle de la chanson gnangnan et chauvine et vieux jeu. Réveille un peu le piano à bretelles, à chaque fois qu'on l'entend, on a les larmes aux yeux. Paris, c'est plusieurs villages, et chacun a son visage, le 16e a son langage, et la bastoche a le sien. Onicos en argomuche, et Pantin se dit pantruche, mais ni le montant, mais ni le muche, et le temps n'y change rien. Moi j'aime bien la place des fêtes, et les chaussettes bien faites, pas loin du tabac buvette, y a l'église et la mairie. Moi je rigole quand je pense à ceux qui partent en vacances en Bretagne ou en Provence. Rien ne vaut l'heure de Paris. Et allez donc, envoie la ritournelle de la chanson gnangnan et chauvine et vieux jeu. Réveille un peu le piano à bretelles. On se croirait au printemps, le ciel est toujours bleu. On sait bien de par le monde que Paris c'est une blonde, et les visiteurs abondent, il en vient de tout pays.
La tour Eiffel les étonne, le musée Grévin les passionne, et la Seine enfin leur donne l'attrait de ses quais fleuris.
Dans la lumière irisée, ils s'en vont, l'âme grisée, le long des Champs-Élysées, et comprennent que Paris
restera quoi qu'il advienne, la capitale souveraine, la seule, l'unique et la reine, par le cœur et par l'esprit. Et allez donc, voilà une tournelle de la chanson gnagnon et chauvin et vieux jeu. Réveille un peu le piano à bretelles, dans le genre exaltant, on ne pourrait pas faire mieux.
Jean-Pierre Marielle et Jean Rochefort dans cette chanson qui fait partie donc de la bande-son du film Des enfants gâtés de Bertrand Tavernier en 1977 et qui fait partie aussi de la merveilleuse collection Écoutez le cinéma dont Stéphane Lerouge est venu nous parler ce matin pour les 20 ans de la collection. Alors à acquérir donc ce magnifique livre-disque avec deux CD et beaucoup d'interviews qui s'intitule donc simplement Écoutez le cinéma et puis également une version vinyle comme il nous l'a expliqué nous-mêmes où vous pourrez retrouver en 3 vinyles quelques-uns des plus beaux extraits de cette collection.
Étonnez-moi Benoît. Benoît Dutertre, France Musique.
Et puis je vous le disais donc tout à l'heure, c'était hier exactement les 50 ans de la disparition de Fernandel. Alors hommage spécial pendant quelques semaines avec quelques joyaux chantés. Et aujourd'hui, tiens, restons justement au cinéma avec une chanson de cinéma d'un de ces films délirants que Fernandel aimait tourner à la fin des années 30. Ça s'appelle « C'est comme ça à Calcutta », extrait du film « Les 5 sous de Lavarède » où il fait le tour du monde, un monde en carton-pâte qu'on dirait aujourd'hui plein de stéréotypes mais qui est surtout complètement loufoque quand on voit ce Marseillais s'habiller par exemple en Maharaja pour nous chanter une chanson donc sur la ville de Calcutta.
Quand on vit au pays des Indes, il faut savoir parler hindou. Et pour ne pas passer pour une dinde, on doit prendre la vie par bon bout. Par Brahma, par Brahma. Oh, quelle drôle de coutume, par Brahma, par Brahma, c'est comme ça à Calcutta. J'ai connu un vieux à barbiche qui voulait faire du cinéma. En tournant, il devint derviche, c'est comme ça que le derviche tourna. Par Brahma, par Brahma, oh, quelle drôle de coutume, par Brahma, par Brahma. C'est comme ça à Calcutta. Dans le pays, il y a les intouchables, c'est les gens qui n'ont pas de pognon. Mais en France, il y a leurs semblables, ce sont des chèques sans provision. Par Brahma, par Brahma, oh, quelle drôle de coutume. Par Brahma, mais oui, c'est comme ça à Calcutta. Le samedi, pour faire leur toilette, ils s'en vont au peuple sacré. Ils n'achètent pas de savonnette. Qu'est-ce que ça fait? Ils ont un bronzé. Par Brahma, par Brahma, oh oh, quelle drôle de coutume. Par Brahma, par Brahma. Mais oui, c'est comme ça à Calcutta. Les hindous n'ont pas de pipelette, pas de facteur, pas de calendrier. Ils se servent de serpents à sonnette, et c'est eux qui montent le courrier. Par Brahma, par Brahma, oh, 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 quelle drôle de coutume. Par Brahma, par Brahma. Oh, le croyez-vous, mais c'est comme ça, à Calcutta, mais oui. Chez le Roumain, il y a le Voïvode, chez le Cubain, la Cucaracha. Il y a aussi la teinture d'iode, vin aux Indes, il y a le Maharaja. Par Brahma, par Brahma, oh, 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 quelle drôle de coutume. Par Brahma, par Brahma, c'est comme ça Calcutta.
les Indes en carton-pâte des 5 sous de la Varède avec l'art merveilleux de 10 heures, vous l'avez entendu, donc de Fernandel, avec aussi la musique de Casimir Oberfeld et l'excellent orchestre de Pierre Chagnon. Tiens, justement, à propos d'orchestre, nous avons rendez-vous maintenant avec Serge et Laïc. Bonjour Serge.
Bonjour cher Benoît.
Eh ben, je suis très heureux de vous retrouver. Vous nous avez apporté ce matin quelques-unes de vos perles de vinyle, comme vous dites.
Eh oui. Et bien, comme le disque vinyle est de nouveau à la mode depuis quelques années, vous le savez bien, Benoît. Eh bien, l'idée m'est venue de chercher dans ma discothèque. J'ai vraiment fouillé. J'ai trouvé quelques perles musicales en stéréophonie, a priori jamais rééditées en CD. C'est là le but de l'histoire. J'ai ainsi retrouvé une jolie version de La Petite Valse, un air très connu, interprété à l'accordéon musette par Henri René et son superbe orchestre. Eh bien, Henri René, compositeur, arrangeur, né à New York, il a beaucoup travaillé pour le label américain RCA, étant alors un moment le producteur de Harry Belafonte.
Et c'était en 1963, La Petite Valse avec l'accordéon et le bel orchestre d'Henri René. Avec un nom pareil, Serge Laïc, j'aurais vraiment cru que c'était un musicien français, surtout pour jouer une valse musette.
C'est un pseudo en fait, son nom véritable était un nom allemand, mais Henri René est un pseudonyme. Mais en fait, Henri René était né d'une mère française. Alors, en contraste avec Henri René, bien, Benoît, j'ai choisi une musique quelque peu jazzy avec le chef d'orchestre américain Skitch Anderson, directeur musical pendant plus d'une décennie du très célèbre show télévisé The Tonight Show. Alors avec son orchestre, eh bien, Skitch Anderson interprète Tutti Flutti, musique souvent utilisée comme interlude durant ce show télévisé, avec un pupitre, c'est assez particulier, de 5 flûtistes, dont une flûte alto, avec donc un flûtiste alto. Skitch créa aussi en 1983 le New York Pops Orchestra, qui eut un grand succès et qu'il dirigera jusqu'à son décès en 2005, formation encore en activité de nos jours.
Thank you. Tutti Flutti, Flutti comme flûte, hein. Vous avez bien entendu, c'était en 1965, Skitch Henderson et son orchestre. Très bel enregistrement choisi par notre ami Serge Elaïc.
Alors on va continuer avec un classique ensuite, avec une élégante version orchestrale de Chantons sous la pluie, Singing in the Rain, parfaitement mise en place par le chef allemand Hans Karste, qui par ailleurs a été l'auteur d'un nombre mais considérable d'albums semi-classiques ou de musique légère. Et alors, étonnamment, Hans Karste fut aussi le compositeur de la chanson, alors permettez-moi de la citer, « Those Lazy, Hazy, Crazy Days of Summer », un des tout derniers succès, ce fut vraiment un succès, du crooner américain Nat King Cole, enregistré 2 ans avant que ce dernier ne disparaisse en 1965.
Le chef d'orchestre allemand Hans Karste, dans Singing in the Rain, bien sûr, en 1969. Ce matin, vous le savez, c'est le programme de musique légère de notre ami Serge Elaïc.
Alors, Benoît, une autre perle de vinyle, eh bien, l'interprétation par l'orchestre américain de Billy Vaughan de Washington Square au Bad, au parc situé au sud de Manhattan, et grand succès au départ du groupe Les Village Stompers. Curieusement, Billy Vaughan, qui a toujours mis en avant un duo de saxophones pour jouer la mélodie de chacun des titres qu'il a interprété avec son orchestre, eh bien, là, Billy Vaughan s'écarte radicalement de ses habitudes musicales.
Thank you.
Et c'était en 1964, Washington Square, enregistré sous la direction de Billy Vaughan, un de ces grands chefs d'orchestre de variété que notre ami Serge Elahi connaît comme personne. Je crois que vous nous en avez d'ailleurs préparé un petit dernier pour la route, Serge.
Et oui, c'est avec l'orchestre allemand de Kurt Edelhagen que nous terminerons donc ce voyage en vinyle, jamais réédité en CD. Alors, Kurt Edelhagen, qui fut le chef d'un big band très réputé outre-Rhin, avait enregistré un album vraiment superbe, entièrement consacré aux Charleston les plus connus, par exemple 5'2" que nous allons écouter. Et pour l'anecdote, c'est Kurt Edelhagen qui joua avec son orchestre lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Munich en 1972. Voilà, cher Benoît, merci et à la prochaine fois.
Oui, à la prochaine fois, très vite j'espère, Serge. Je vous souhaite un très bon week-end.
Merci.
L'orchestre de Kurt Edelhagen en 1975, une des raretés choisies ce matin pour nous par Serge Laïc. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duterte préparée par Annie Comier, aujourd'hui à la technique Alex Billard et Dalia, réalisation Olivier Guérin. On se retrouve la semaine prochaine avec le réalisateur Serge Corbert, qui fut aussi un très proche ami de Rissé Barrier ou Bobby Lapointe.
À réécouter sur francemusique.fr.